Nous avons également la chance d'avoir Patrick Maxime Michel, qui fait à peu près quand même le même métier, c'est juste, on peut le dire. Prenez votre micro.
Oui, plus ou moins, oui.
On peut le dire. Alors, je vais vous les présenter en détail dans un instant. Vous avez compris, j'imagine, si vous êtes tous là, le thème, qui est un thème grave aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'actualité qui se déverse en fin de compte tous les jours entre la radio et la télévision, qui est celui de Palmyre. Mais un thème, évidemment, qui est encore plus précis et qui, même si l'on pense d'abord à l'urgence humanitaire, existe bel et bien et est vraiment un thème, à savoir, faut-il restaurer Palmyre aujourd'hui ? Nous abordons aujourd'hui cette immense question historique, qui est aussi une question, je dirais, philosophique, patrimoniale, qui est une question technique, nous le verrons. Comment le faire ? Comment restaurer Palmyre, si l'on veut, si l'on doit restaurer Palmyre, qui est aussi une question, je crois, politique. Pardonnez-moi. Une question politique parce qu'il y a de nombreuses puissances en jeu. Vous le savez, évidemment, il y a les Russes, il y a le maître de Damas, il y a l'Europe, il y a les États-Unis. Il y a énormément de gens qui se pressent au portillon de Palmyre. Et on imagine bien que si c'est par l'amour des vieilles pierres, c'est pas uniquement par l'amour des vieilles pierres qu'ils se pressent sur le site de Palmyre. Aujourd'hui, Palmyre a été libéré il y a environ 10 mois, après avoir été dynamité par Daesh, qui l'a occupé de longs mois. C'est évidemment, c'est effroyable. L'urgence humanitaire l'est encore plus, sans doute, on en parlera. Mais comment aborder cette thématique ? Comment aborder les vraies questions ? Aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de vous présenter, comme je vous l'ai dit, Annie Sartre, d'abord, qui, vous la connaissez sans doute, est professeure émérite d'histoire ancienne à l'université d'Artois. Bon, j'en ai 8 lignes, je vais vous les dire, hein, c'est important. Spécialiste du Proche-Orient gréco-romain, elle a travaillé en particulier sur les coutumes funéraires, sur les notables de la Syrie antique et sur les voyageurs du 19e en Syrie. Elle est également la co-auteure, avec Maurice Hart, son mari ici présent, de Palmyre, la cité des caravanes, aux éditions Gallimard, Zénobie, évidemment, de Palmyre ou à Rome, aux éditions Perrin, et Palmyre, vérité et légende, que je viens de vous montrer. Son mari donc, Maurice Sartre, professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Tours, est l'auteur d'Alexandrie à Zénobie, le Levant antique, les histoires grecques, et avec son épouse de Palmyre, la cité des caravanes également, comme je viens de le dire. Enfin, le plaisir d'accueillir également Patrick Michel, maître assistant en assyriologie à l'université de Genève. Je crois que vous vous connaissez, ou bien oui, c'est ça. Et qui est également collaborateur scientifique à l'Université de Lausanne, responsable des archives Paul Collard, membre du comité de société suisse d'études du Proche-Orient ancien et vice-président de Chirine. On dit Chirine, c'est juste Chirine, vous expliquerez ce que c'est, qui est pour la sauvegarde du patrimoine syrien. Moi, j'aimerais commencer par une question peut-être de rappel qui me paraît nécessaire immédiatement. Et ça, je m'adresse en particulier à monsieur et madame Sartre. Je ne sais pas qui vous en répond en premier. Mais en quelques mots, Palmyre, avant d'être détruit, évidemment, c'était une cité qui a fait date, qui fera toujours date. Et avant d'entendre aujourd'hui sa destruction, quel était et comment était l'heure de gloire de Palmyre ? Maurice, peut-être ?
Alors, d'abord, l'histoire de Palmyre, il ne faut jamais l'oublier, c'est une très très longue histoire. Ce n'est pas du tout une cité surgie d'un coup des sables comme ça, comme l'a dit. Je dis ça parce qu'un livre qui vient de sortir récemment le présente de cette manière-là. L'histoire de Palmyre, on la connaît, on la suit à peu près pendant 3 millénaires au moins. Même si, et c'est ce qui trompe souvent les gens, et notamment ceux qui ne sont pas spécialistes, ce qui se voyait à Palmyre, est très concentré dans le temps. Ce qui était le plus spectaculaire dans Palmyre, que ce soit les grands temples, les tombeaux dont on va reparler tout à l'heure, sont tous effectivement des 3 premiers siècles de notre ère, c'est-à-dire de l'époque de la Palmyre romaine. Mais on connaît le nom de Palmyre dès le 20e siècle avant Jésus-Christ par des tablettes assyriennes. Le nom apparaît de façon épisodique au 18e, au 13e, au 11e siècle, puis plus rien pendant tout le premier millénaire pratiquement. Donc, j'insiste là-dessus parce que ça veut dire qu'il y a aussi toute une histoire de Palmyre qui restait à découvrir et qui reste évidemment encore à découvrir, celle de la plus ancienne Palmyre. Ce qui apparaissait jusqu'à présent, c'était donc cette période qui est remarquable, c'est vrai, mais qui est loin d'être la seule dans l'histoire de Palmyre, qui est l'époque romaine. Alors, deux mots là-dessus. Contrairement à ce qui a été souvent dit, répété, et qu'il faut continuer à combattre, à l'époque de l'Empire romain, Palmyre n'est pas du tout un état tampon entre Rome et les Perses, c'est une cité frontière de l'Empire romain. C'est une cité qui est dans l'Empire romain, qui appartient à l'Empire romain à partir de 17 au plus tard de notre ère, et qui reste romaine jusqu'à la conquête arabe en 634. Autre légende qu'il faut combattre, vous savez, les spécialistes de Palmyre, souvent ma femme et moi répondons ça, notre principal travail, c'est de dire non, ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça. Bon, eh bien, tout le monde a parlé de Zénobie qui s'est proclamée impératrice de Rome, qui a échoué dans son entreprise. Elle n'a pas fait la guerre à Rome, puisqu'elle s'était proclamée impératrice de Rome. Palmyre n'a pas été non plus détruite par les Romains du tout. Et Palmyre reste une ville d'une certaine importance, moins brillante probablement qu'à l'époque impériale romaine, mais jusqu'au 10e, 11e siècle de notre ère. C'est après qu'elle redevient vraiment un village et quelque chose de pas très important. Donc vous voyez, c'est une histoire très importante, très longue. La deuxième chose, puis je m'arrêterai là, parce que je ne vais pas parler tout le temps, la deuxième chose qui me paraît importante, c'est que Palmyre, malgré tout, est un point de contact. C'est un point de rencontre de cultures et de civilisations extrêmement différentes. Alors on dit l'Orient, l'Occident, ça ne veut pas dire grand-chose. L'Orient, l'Occident, c'est des notions géographiques, ce n'est pas des notions culturelles. Un oriental, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire. Il y a des Syriens, des Égyptiens, il y a tout ce que vous voulez, c'est différent. Mais c'est vrai que c'est un point de rencontre entre des traditions du monde gréco-romain et du monde sémitique, qui lui-même est très varié, puisqu'il y a des Araméens, il y a des Arabes, et puis il y a aussi tout le fond culturel de la Mésopotamie. Les dieux de la Mésopotamie se rencontrent à Palmyre. D'ailleurs, on peut se borner presque à examiner le Panthéon de Palmyre. Et le Panthéon de Palmyre est un très bon reflet de cette diversité et de cet intérêt donc exceptionnel de Palmyre. Parce qu'on a là à la fois des dieux qui viennent de Mésopotamie, comme Nabou, des dieux qui viennent des tribus arabes, comme la grande déesse guerrière Alat, ou les dieux cavaliers comme Arsou. On a des dieux qui viennent de Phénicie ou de la Syrie occidentale, comme Baal Shamin, ou Ashtarté, ou Atargatis. Et puis on a des dieux de l'oasis même, comme le dieu Bel, qui est un dieu local, un dieu topique, comme on dit, c'est le dieu protecteur. Mais il y a aussi des dieux grecs, qui sont des dieux grecs pour eux-mêmes, comme Héraclès, comme Némésis. Là aussi, contrairement à ce que disent certains, même des dieux grecs ont été acceptés, non pas sous le, comment dire, comme habillage d'un dieu indigène, mais parce qu'ils étaient grecs, justement, et qu'on voulait faire grec. Les seuls dieux qui manquent vraiment à l'appel, c'est les dieux romains, mais comme il y avait des équivalences entre dieux romains et dieux grecs, en réalité, ils sont présents, et puis il y a le culte impérial, qui est un culte proprement romain. Donc le Panthéon est un bon reflet de cette diversité de Palmyre. Et l'autre aspect qui est très visible pour quiconque est allé à Palmyre, c'est aussi la multiplicité des langues. Palmyre est une ville où on parle d'un côté araméen, c'est la langue la plus répandue. La plupart des inscriptions, il y a à peu près 3000 inscriptions en araméen, mais la langue officielle de la cité, c'est quand même le grec. Et les textes officiels de la cité de Palmyre, puisque c'est une cité grecque, c'est le grec. L'araméen n'est jamais que la traduction. En général, comme les textes sont parfois bilingues, l'araméen n'est que la traduction, parfois d'ailleurs un peu raccourcie, du grec.
Merci. Peut-être, Annie, vous écrivez notamment d'ailleurs sur la jaquette même de votre livre que ce site prestigieux a attiré autant de haine que d'intérêt. En fin de compte,
oui,
pour quelle raison?
Alors, d'abord parce que le site était tout à fait spectaculaire et surtout très connu à l'extérieur. En fait, c'est vrai, lorsque l'on parle de la Syrie, c'est peut-être l'image de Palmyre qui vient en premier lieu. Les touristes qui venaient en Syrie allaient tous à Palmyre. En revanche, peu allaient dans le sud de la Syrie, par exemple, qui est tout aussi intéressant. Cette région qui est au sud de Damas et qui se prolonge donc jusqu'à la frontière jordanienne, qui est la zone du basalte, qui est dans chaque village, vous trouvez des vestiges des époques anciennes, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, les plus visibles des époques romaines, et notamment de l'époque romaine tardive, avec des villages dans lesquels vous trouviez des maisons intactes du 5e ou du 6e siècle. C'était un peu l'équivalent de ce que l'on pouvait voir aussi en Syrie du Nord. Et là, c'est la même chose. Les gens allaient un peu à Saint-Siméon, voir la basilique, mais il y avait des centaines de villages en Syrie du Nord, qu'on appelle les villes mortes parce qu'elles n'avaient pas été réoccupées pratiquement depuis la fin de l'Antiquité. Et maintenant, elles l'étaient davantage ces dernières années, qui présentaient également une architecture d'une variété extrême, avec des églises auxquelles il ne manquait que le toit, des maisons qu'on aurait pu habiter rapidement après quelques aménagements, bref. Mais malgré tout, Palmyre focalisait un intérêt, alors sans doute par sa position dans le désert, un désert qui n'était pas un désert de dunes et de sable tel que le Sahara, qui est un désert dans lequel l'hiver il pleut, ou il neige même à Palmyre. Quand on allait à Palmyre au mois de janvier, ce que peu de touristes faisaient, parce qu'ils venaient surtout en été, ils voyaient surtout une Palmyre un peu écrasée par le soleil, même si le soleil sur les monuments jouait à chaque heure du jour et de la journée de manière différente, ce qui faisait aussi un des charmes du site. C'est une zone de Syrie dans laquelle on pouvait rencontrer la neige, des congères sur la route, des grands lacs autour de Palmyre, etc. Ce qui explique d'ailleurs que les Palmyréniens dans l'Antiquité aient pu fonder leur fortune sur l'élevage des chameaux et des chevaux qu'ils utilisaient comme moyen de transport pour aller chercher les marchandises à forte valeur ajoutée dans le golfe Persique et qui arrivaient d'Inde, de Chine, d'Afrique, etc. Donc il y avait cette magie du site par la géographie du site. Il y avait, alors je dirais pour les Syriens, cette idée sans doute que l'on dénonce un peu dans le livre en présentant cela comme quelque chose d'excessif et d'à la limite faux, de cette épopée de Zénobie à Palmyre que les Syriens avaient tendance à monter en épingle comme étant une épopée de libération du territoire de la Syrie dans l'Antiquité des méchants romains colonisateurs. Donc il y avait une récupération de ce site par la propagande, disons politique, du régime pour magnifier ce site et le présenter. D'ailleurs, Zénobie, vous la trouviez sur les billets de banque, vous la trouviez sur les timbres, vous la trouviez comme intitulée d'hôtels, de restaurants. Enfin bref, il y avait une récupération de ce personnage historique, parce que c'est une figure historique, ce n'est pas qu'une légende, même si la légende a parfois un peu dépassé la réalité, qui était vécu par les Syriens comme un personnage fondamental de leur histoire. Et alors c'est là que c'est un peu paradoxal, parce que autant ils étaient fiers de ce site par son histoire, parce qu'ils en avaient imaginé en quelque sorte le lien qu'il pouvait y avoir avec eux, et en même temps il y avait une espèce de laisser aller, on va dire, de la protection de ce site, qui est assez étonnante. Et d'ailleurs, quand on voit la rapidité avec laquelle le site a été abandonné à Daesh lors de l'arrivée donc des djihadistes à travers 300 km de désert, où on les a vus comme des mouches sur le lait, où tout le monde savait qu'ils arrivaient. Depuis 3 jours, on savait qu'ils se préparaient à partir depuis Raqqa sur le Frat, et tous les observateurs ont prévenu, et les Américains et les Occidentaux, que Daesh était là et qu'ils allaient arriver. Or, ils sont arrivés sans aucune difficulté, ils sont rentrés dans la ville, les soldats syriens qui étaient là ont abandonné le site au bout de 48 heures sans qui est de réel combat. Et donc, on est un peu étonné de voir que ce site aussi prestigieux, aussi important aux yeux des Syriens, qui était monté en épingle par le régime, ait pu être ainsi abandonné à la folie. Parce que peu de temps après qu'ils soient entrés dans Palmyre, les djihadistes ont commencé à faire sauter, d'ailleurs, des mausolées musulmans. Ils ne se sont pas seulement attaqués aux ruines romaines, mais ils ont fait sauter deux mausolées du XVIIe et du XVIIIe siècle qui abritaient des dépouilles de saints musulmans. Ils se sont attaqués au directeur du site en le massacrant de manière absolument abominable. Et puis, dans la foulée, ils ont fait sauter les monuments emblématiques du site. Alors, visiblement, dans une attitude de vengeance, aussi bien à l'égard du régime syrien, qui accordait de l'importance au site, qu'à l'égard des Occidentaux, qui, évidemment, eux aussi, attachaient une importance à ce site et dont c'était, malgré tout, pour tout le monde, un site de notre patrimoine à nous aussi. Ce n'était pas seulement un site du patrimoine syrien. Après tout, Palmyre, c'était aussi un site du patrimoine de l'humanité. D'ailleurs, c'est ce qu'a bien compris l'UNESCO en reconnaissant en 1980 le classement de ce site au patrimoine mondial. Donc, il y a là un paradoxe, effectivement, et une émotion d'autant plus grande de voir ce site mutilé parce qu'il appartenait à tout le monde, en fait.
Patrick Michel, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, par rapport au paradoxe entre amour et haine, un autre point à souligner, c'est que autant Palmyre pouvait être admiré par la population syrienne, autant Palmyre était crainte parce que c'était le siège de la pire prison que le régime syrien avait mis en place. Et il y a eu toute une négociation aussi au moment de la prise où on a organisé la libération d'un certain nombre de prisonniers, etc., avant que Daesh arrive et puisse réutiliser une partie des personnes qui avaient été laissées sur place. Et donc, le nom de Palmyre rayonnait d'un point de vue culturel en Syrie, c'est vrai, mais la prison de Tadmor faisait aussi craindre les Syriens. Et donc là, il y a aussi ça qui était très fort dans ce sentiment entre amour et haine.
Alors aujourd'hui, évidemment, la question que vous avez évidemment introduite, c'est l'état des lieux. Avant même de penser au principe même de reconstruction, à sa nécessité, à sa légitimité, qu'en est-il aujourd'hui sur le terrain? On entend des cris d'enthousiasme en disant « mais 80% des choses ne ont pas été touchées, vous l'avez lu comme moi, tout va bien, il suffira de 2-3 coups d'imprimante 3D pour faire renaître Palmyre ». Je caricature bien évidemment. Et puis d'un autre côté, on voit qu'on a énormément de dégâts, au-delà même du site, puisqu'il y a toute une partie de fouilles aussi qui pourrait être relancée. Donc quel est l'état des lieux? Qui a été le plus récemment sur les lieux? Madame, je crois.
Alors, nous avons quitté la Syrie en juillet 2011 et on était encore à Palmyre en mai 2011. Tout seul d'ailleurs, ou pratiquement, parce que plus aucun touriste n'était autorisé à venir en Syrie à partir de ce moment. À partir déjà du début avril, les agences de voyage avaient renoncé à envoyer des touristes. Le ministère des Affaires étrangères en France déconseillait fortement les voyages en Syrie. Nous habitions là en ce moment-là et on a eu l'opportunité d'aller à Palmyre en mai 2011 et de voir le site pour nous tout seuls, ce qui est évidemment une image qu'on garde très précieusement en nous. Alors, qu'est-ce qui a été détruit? Alors, quand on dit 80% du site est resté intact, encore faut-il s'entendre sur ce que sont les 20% qui ont été détruits. Parce qu'en réalité, les 20% détruits, c'est le plus important. On a détruit le grand temple de Bel, qui est réduit à un état de gravats. Il y a juste le soubassement du temple, quelques blocs de la partie supérieure qui sont tombés parce que les explosifs, même si Daesh s'y est repris à 3 fois avec 300 kilos de TNT, je crois, enfin bon, pour faire sauter le temple, il y a des éléments de la partie supérieure qui sont tombés sur le sol. Et n'est resté debout que la porte monumentale d'entrée. Monument alors totalement dérisoire, enfin c'est fascinant quand on voit cette photographie. Et puis ils ont détruit également totalement le petit temple de Baal Shamin, qui était un petit joyau d'architecture, de sculpture, enfin avec son petit arbre qui poussait à l'intérieur, enfin bon, c'était un endroit magique. Bon, ça s'est réduit à l'état de cendre, enfin à l'état de poussière. Donc c'est les deux plus beaux temples, parce que les autres temples de la cité étaient déjà au niveau du soubassement. On n'avait pas d'élévation importante. Troisième chose qui a été détruite, ce sont les tours funéraires. Or, les tours funéraires de 5 étages, avec leurs décors peints à l'intérieur, pour la plupart d'entre elles, avec leurs sculptures et leurs stucs, avec leurs portraits, leurs bustes funéraires en bas-relief qui obturaient les emplacements funéraires, la plupart des plus belles ont été détruites. Ceux qui connaissent le site et qui ont connu la tour des Labels, il ne reste plus rien de la tour des Labels dans la vallée des tombeaux. Il ne reste pratiquement plus rien des tours de la butte de Belkis qui dominaient le site et qui était un endroit bon, on ne voyait que ces tours. Et d'ailleurs, les morts qui avaient fait, enfin, les familles qui avaient fait construire ces tours sur la butte de Belkis, c'était aussi pour qu'on les voit. Il y avait cette volonté de visibilité de leur richesse, de leur puissance, en utilisant des sites dominant. Et donc là, la tour de Jamblique a disparu, la tour 71, on ne savait pas à qui elle appartenait, a disparu, la tour d'Atenatan a disparu. Enfin bref, il y a 7 tours funéraires parmi les plus belles qui ont été réduites à l'état de poussière.
Donc ils n'ont pas du tout visé au hasard. Enfin, il y avait vraiment des objectifs.
Bien sûr, c'était les plus magnifiques, enfin les plus emblématiques, on va dire. Et puis a été détruit enfin le Grand Arc, qui était, alors qui est sur la photo là, de couverture du livre, qui lui, alors on en reparlera sans doute tout à l'heure, n'a pas été apparemment détruit avec un explosif, mais renversé avec un engin. Et donc là, des photos que j'ai pu voir, il y a des blocs à terre qui pourront peut-être être remontés. Alors, il avait déjà été très fortement restauré hein, par les archéologues français à l'époque du mandat, et puis encore après, il y a eu des restaurations régulières. Donc déjà, il était un petit peu bétonné, hein, si on peut dire, mais il y avait quand même un bon nombre de blocs, et notamment dessus des inscriptions tout à fait importantes pour l'histoire du site. Il n'y avait pas que l'aspect de l'arc, hein, il y avait toutes les inscriptions qui étaient gravées sur les consoles ou sur les montants de l'arc, et malheureusement, tout cela, je pense, est parti, s'est cassé en 1000 morceaux. Donc voilà l'état du site. Alors j'ajouterais, pour terminer, que bien sûr, on est frappé par les destructions de ce qui était visible, de ce qui était le plus spectaculaire, les tours, les temples, etc. Mais il ne faut pas oublier que le site est livré à un pillage systématique. Et cela depuis très très longtemps. Bon, je ne remonterai pas aux origines du pillage à Palmyre, parce qu'on pourrait remonter au début du 19e siècle. Hein. En gros, on a commencé à s'intéresser à ces bustes funéraires, justement, avec les voyageurs qui arrivent au 19e. Ceux du 18e, ils s'intéressent aux momies, ils ne s'intéressent pas aux bustes. Mais au 19e, oui, ils ont compris que tout cela avait une certaine valeur marchande. Donc tous les musées du monde ont des bustes funéraires de Palmyre. Hein. Vous pouvez aller en voir dans tous les musées du monde. Il y en a même à Genève. Qui ont été prêtés pour certains d'ailleurs au Mucem à Marseille. Tous ces bustes proviennent d'achats par des voyageurs, par des archéologues qui les ont rapportés, des trocs entre les populations locales, les bédouins localement et les voyageurs. Donc, si vous voulez, tous ces bustes, il en restait encore des centaines, à la fois dans les tombeaux connus, mais aussi dans beaucoup de tombeaux à fouiller. Marie disait tout à l'heure que le site était encore à découvrir, et de fait, on peut dire que là, il y a 80% encore du site de Palmyre qui restait à découvrir, qui n'avait pas été fouillé. Or, on sait de sources certaines que depuis le début de la guerre, et même avant, le pillage était érigé en système. On fait des trous, on ouvre les hypogées, c'est-à-dire les tombeaux souterrains, on va découper les bustes, on casse les grands sarcophages sur lesquels il y avait aussi des bustes, où les familles, parfois, qui étaient représentées sur le couvercle du sarcophage, en quasiment grandeur nature, tout en famille, le père, la mère, les enfants, les serviteurs, etc. Tout cela est découpé en morceaux et prend le chemin de diverses destinations par la Turquie, par le Liban, par la Jordanie, et puis à partir de là, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Enfin, on retrouve quotidiennement des morceaux de ces pillages.
Alors, on va en parler voilà. Précisément. Voilà. Ça, c'est
donc là, le site est malheureusement ravagé par les pillages. Ouais. Et donc, c'est une perte pour l'histoire, parce que un objet qui est sorti de son contexte historique ou archéologique, pour l'historien, pour l'archéologue, c'est un bel objet, certes. Mais il n'a pas de sens historique. On ne peut pas le rattacher à des séries. On ne peut pas... Voilà.
Maurice,
oui. Je crois qu'il faut insister là-dessus. La destruction et le pillage de Palmyre ne sont pas que le fait de Daesh. Daesh est responsable de crimes abominables, la destruction des grands monuments. Mais le pillage des tombeaux et la destruction de certains datent de la période où les troupes de Bachar el-Assad tiennent Palmyre. c'est-à-dire entre 2013 et l'arrivée de Daesh. Notamment, il y avait deux très très beaux tombeaux dans la nécropole sud-est que les Japonais avaient restaurés intégralement, qui étaient absolument de toute beauté. Nous, on les a beaucoup utilisés dans le petit Gallimard découverte auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Là, vous verrez les photos. Il n'en reste rien. Et ça a été pillé avant 2015. Et nous savons, par les communications avec les Syriens restés sur place, que le pillage a repris à grande ampleur depuis l'arrivée des troupes de Bachar el-Assad. Pour ça que je m'abstiendrai de parler de libération de Palmyre. Disons qu'on a expulsé Daesh, je ne dirais pas que la ville soit libérée. Et l'arrivée des Russes qui ont installé un camp militaire sur la nécropole nord, en étant persuadés ou en faisant comme s'ils ne savaient pas que c'était une zone archéologique. Or, la nécropole nord, ce sont des hypogées, donc des tombeaux souterrains, donc les dégâts sont immenses. Dernière remarque aussi, pour être plus complet, le musée. Il y avait un musée à Palmyre, très riche, avec beaucoup de reliefs. Lorsque Daesh a pris Palmyre, la direction des antiquités, lisant les communiqués préparés ailleurs, je le dis tout de suite, les responsables des antiquités n'y est pas pour grand-chose, ont fait savoir que le musée avait été vidé. On sait maintenant que c'est totalement faux, puisque dans la semaine qui a suivi l'arrivée de l'armée de Bachar après l'expulsion de Daesh, deux de nos collègues polonais sont allés faire une mission à Palmyre à la demande des autorités syriennes, et ils nous ont ramené des photos que nous avons vues à Varsovie au mois d'avril, donc c'était tout frais, ils en revenaient. Tout le musée, toutes les pièces du musée étaient là, y compris des choses qui pouvaient très bien être emmenées, comme par exemple les tissus, c'est pas difficile à déplacer. Tous les bustes du musée ont été martelés et détruits par Daesh. Mais donc, le régime est responsable tout de même de n'avoir pris aucune mesure de protection, aucune mesure de déplacement de ce qui aurait pu. Bien sûr, on n'emmène pas facilement des choses qui font 3 tonnes, mais il y a beaucoup de plaques de l'oculus, vous savez, de tombeau, tous ces portraits funéraires que vous voyez partout, dont Annie parlait tout à l'heure, il y en avait plein dans le musée de Palmyre, toutes les têtes sont martelées. J'insiste là-dessus parce qu'on va en reparler sur les programmes de restauration et
exactement. Merci Patrick, vous vouliez ajouter quelque chose?
Le gouvernement aussi responsable de la construction des routes pour laisser passer les chars après la libération et la construction de l'aéroport sur le site même, enfin des pistes d'atterrissage où on a coulé des chapes de béton alors qu'il existe à 3 km en dehors de la zone archéologique un aéroport qui était existant et fonctionnel. Donc
En échangeant avec vous pour préparer ce débat, vous avez eu les mêmes mots sans forcément le savoir les uns des autres. C'est la question de précipitation qui a vraiment été mise en avant par chacun de vous, à savoir il ne faut pas de précipitation. Pourquoi devoir le préciser aujourd'hui, Patrick ?
Nous, on a réagi. Donc là, je parle au nom du comité de Chérine. Donc, je suis le vice-président au niveau suisse et on a fait une motion. Donc, l'organisation Chérine est une organisation internationale qui a été créée au sein des universités et en général par des membres des missions européennes qui avaient travaillé en Syrie. Et c'est donc une association pour la sauvegarde du patrimoine syrien. Et Chérine a réagi extrêmement fortement par une motion qu'on a envoyée à l'UNESCO au lendemain des déclarations de la directrice générale Irina Bokova qui annonçait pouvoir utiliser des capitaux russes pour la reconstruction imminente de Palmyre. Et là, nous, tout de suite, on a dit stop, qu'est-ce qui se passe ? Donc, pas de précipitation, pourquoi ? Premier point, c'est qu'il y a actuellement une urgence. Je parle uniquement d'un point de vue du patrimoine et pas donc des vies humaines, c'est de dresser donc un inventaire pour savoir qu'est-ce qui est réellement urgent, s'il y a des choses qui font consolider. Si on parle des deux temples qui ont été dynamités, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, les blocs sont à terre, ça peut encore attendre. Pourquoi attendre ? Parce que nous, la position qu'on défend fortement, c'est de dire que c'est les Syriens d'abord qui doivent décider de ce qu'ils veulent faire. On ne veut pas qu'il y ait une ingérence de l'extérieur. Palmyre a aussi beaucoup souffert de cette archéologie qui s'inscrit dans une histoire coloniale où les Européens ont systématiquement voulu s'approprier le site. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que les Européens réagissent exactement de la même manière. Tous les Européens veulent partir à Palmyre en disant « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, nous y étions », etc. Donc aujourd'hui, ce qui est très important de dire, c'est que le peuple syrien aura besoin du site et des monuments pour se reconstruire. construire, pour travailler sur son identité plurielle, mais que c'est eux-mêmes qui doivent décider. Ensuite de quoi, nous on dit, les missions étrangères qui avons travaillé là-bas, nous sommes à disposition. Si je parle du fonds Collard, on a effectivement toute la documentation qui touche le sanctuaire de Baal Shamine, donc on peut remonter comme les pelures d'un oignon, si vous voulez, l'ensemble de la fouille du sanctuaire de Baal Shamine. Donc nous, on s'occupe de numériser les documents et de les mettre à disposition ensuite en disant, voilà, si vous voulez de notre aide, nous sommes là. Et on ne veut pas non plus qu'il y ait une appropriation politique, c'était le cas avec le problème russe, appelons ça le problème russe.
Personne parce de l'UNESCO pas... là aujourd'hui. Hein.
Non, hélas, mais le substitut d'Irina Bokova nous a répondu en disant qu'il prenait très au sérieux notre motion, qu'il prenait bonne note et qu'ils allaient travailler avec les missions étrangères et que du coup, ça a quand même permis de freiner un petit peu. Ils sont un peu revenus quand même en arrière. Ils se sont bien rendu compte qu'ils ne pouvaient pas laisser le travail fait uniquement par un seul pays, surtout qu'il y avait des enjeux politiques sur lesquels on pourra peut-être revenir.
Pour compléter ce qui vient d'être dit, exact, en même temps d'ailleurs que Chirine a voté cette motion, il y a eu cette réunion de Varsovie où étaient présents à peu près tous les spécialistes de Palmyre qui travaillaient ou qui avaient travaillé à Palmyre et qui ont voté une motion qui, en gros, dit exactement la même chose. Surtout pas de précipitation. D'abord, faire l'inventaire, de savoir exactement où on en est. Effectivement, ce qui est déjà à l'état de caillouti, c'est pas la peine, ça peut attendre. Mais en revanche, on a beaucoup insisté sur la nécessité de protéger. Car au moment où les Russes nous disaient « on va tout reconstruire », on voyait des masses de gens se promener n'importe où sur le site et continuer donc les dégradations. Et de la même manière, toutes les missions qui étaient représentées à Varsovie ont dit exactement ce que disait aussi Chirine. Nous avons toutes les archives de missions à la disposition des Syriens pour étudier et restaurer ce qui pourra l'être et faire les travaux qui seront décidés.
Mais par rapport à cette question d'autodétermination, d'une certaine manière, hein, comme vous en parlez, est-ce qu'il y a les compétences et les moyens sur place?
Voilà, c'est un peu
la question.
Oui, c'est aussi la raison pour laquelle on a un peu freiné les choses, parce que je suis tout à fait d'accord que c'est aux Syriens de décider ce qu'ils veulent faire. Mais on sait tous qu'ils n'ont pas toutes les compétences voulues pour la restauration d'un tel site. Et on parle de Palmyre, mais on pourrait parler de tous ceux qui ont subi les dégradations de la guerre. On pourrait parler d'Alep, où 80% de la vieille ville est à l'état de gravats, où les souks ont tous brûlé. On pourrait parler de la restauration d'Apamé, où là aussi il y a eu des dégâts importants, des sites de la vallée de l'Euphrate, etc. Donc, il va y avoir un chantier absolument énorme au lendemain de la guerre, quand la guerre se terminera. Et les Syriens, de toute façon, n'auront pas les moyens matériels d'entreprendre ce genre de restauration, voire de reconstruction. Bon, si toutefois, on peut parler de reconstruction. Donc, c'est vrai que nous avons plutôt dit aussi, attention, attendez... profiter des offres que l'on vous fait pour le faire les choses le mieux possible. Parce que ce que l'on craint, c'est qu'en se précipitant pour effacer les traces de la guerre, ce soit des restaurations qui ne respectent pas le bâti ancien, qui ne respectent pas la tradition. On le voit malheureusement au krach des Chevaliers. Le krach des Chevaliers a été touché dès le début de la guerre par des obus. Des parties se sont effondrées et très vite, les Syriens ont voulu colmater ces brèches, si l'on peut dire. Alors, et depuis, ils ont fait appel à des groupes d'archéologues hongrois qui sont venus les aider à rebâtir des parties extérieures de la forteresse. Mais nous, on a vu quand même, en fréquentant la Syrie depuis 50 ans, parfois les restaurations hâtives, mal ficelées, mal réfléchies, avec du béton, avec des matériaux taillés de façon moderne, avec des scies mécaniques. Bon, bref, tout cela, honnêtement, si on revient au site de Palmyre, moi, je ne tiens pas du tout à ce qu'on nous reconstruise le temple de Belle moderne à la manière du château de la Belle au Bois dormant à Disneyland. Voyez. Donc, là encore, hein, si nous freinons, si nous disons attendez, c'est pour qu'ils aient le temps, eux aussi, de se reconstruire et peut-être même de songer à reconstruire les habitats pour les gens avant de songer à reconstruire des ruines.
C'est bon, la question que j'allais vous poser, voilà, c'est qu'il y a quand même une question d'urgence humanitaire. Absolument. Aussi par rapport à la question de précipitation. Absolument. Patrick.
C'est évident qu'une ville comme Alep, c'est voilà. Une ville sur laquelle on doit réfléchir avant de penser à la restauration. préférerais même restauration que reconstruction éventuelle, mais disons restauration partielle de Palmyre. Il faut travailler sur cette ville où il y avait des millions d'habitants qui vivaient, qui était aussi un joyau d'architecture et d'histoire syrienne. Et je pense qu'il y a des priorités qui doivent être mises le jour où il y a des moyens financiers, qui ne seront vraisemblablement pas que des moyens syriens. Mais je pense qu'Alep sera clairement la priorité dans le programme. On ne peut pas imaginer les choses autrement.
Oui. Surtout, toujours sur l'état des lieux, il y a la question des mines aussi, qui pourraient rendre un petit peu périlleux les travaux, pour autant qu'ils commencent de cette manière-là.
Oui, bien sûr. Alors, il y a eu une campagne de déminage...
Un tout petit peu plus proche, votre micro.
Il y a eu une...
Non, il ne marche pas. T'as dû appuyer
sur... Ah, j'ai appuyé peut-être par erreur.
Voilà, on vous en prête un.
Oui, il y a eu une campagne de déminage à Palmyre de la part des Russes. Donc là, on manque beaucoup d'informations. Mais pour en venir à ce freinage que tout le monde, que tous les archéologues et tous les scientifiques souhaitent, je crois qu'il est aussi, je dirais, doublé d'une autre préoccupation. Je crois que, pas beaucoup m'avancer en disant que ce qu'on voudrait tous, c'est que l'avenir archéologique, le sauvetage archéologique du patrimoine syrien soit un petit peu déconnecté des ambitions politiques et des programmes politiques. On l'a dit tout à l'heure, Palmyre, ça a été un enjeu idéologique. D'ailleurs, très ambigu, comme on l'a dit tout à l'heure, Annie l'a dit, on l'a dit les uns les autres, puisqu'à la fois, Palmyre, c'est la gloire, en quelque sorte, de la Syrie en Méditerranée, puisque c'est ce que viennent voir les touristes, et en même temps, le discours officiel, c'est de vous dire que la période romaine, c'est la période la plus sombre de l'histoire de la Syrie, puisque c'est une période coloniale. Donc on est en plein discours schizophrène, en réalité. Hein ? Mais et ça, si, nous, on a entendu le ministre de la Défense nous dire dans un colloque sur Palmyre, à Palmyre, l'époque romaine, qui est la période la plus sombre de l'histoire de la Syrie. Alors, quand vous ouvrez les yeux autour de vous, on se disait que ce sombre-là avait bien du charme, quand même. Bon, enfin, bref. Donc, si vous voulez, on est quand même dans un discours schizophrène. Ce qu'on voudrait, c'est que l'histoire en Syrie soit enfin débarrassée du poids idéologique. Parce que c'est pas simplement Palmyre qui est un enjeu idéologique, c'est toute l'histoire. Annie parlait de Zénobie tout à l'heure. Dire aujourd'hui à un Syrien que Zénobie n'a jamais été reine de Palmyre, parce que Palmyre n'est pas un royaume, c'est quelque chose qui est inaudible. Inaudible. Zénobie, elle est le leader du Front de Libération Nationale. Elle a fondé, là je cite presque mot à mot le discours officiel, elle a fondé le premier empire arabe en luttant contre la domination coloniale de Rome. Alors quand vous faites remarquer, mais c'est quand même bizarre parce qu'elle a pris comme titre le titre de Septimia Zenobia Augusta, qui est le titre d'une impératrice de Rome. Vous n'êtes pas entendu. Parce que l'histoire, pour les idéologues, elle se fait pas avec des documents, avec des sources, elle se fait avec leur imaginaire. Donc, je crois que ce qu'on peut souhaiter, tous, c'est que l'histoire échappe enfin à cette emprise de l'idéologie. Et je pense qu'à ce moment-là, on comprendra l'urgence qu'il y a à réfléchir longuement avant de restaurer, de reconstruire, faire des choix. Après tout, les destructions dont on vient de parler, elles font maintenant partie de l'histoire de Palmyre. Les Japonais, ils ont gardé le souvenir d'Hiroshima. Les Allemands, longtemps, et encore maintenant d'ailleurs, ont gardé le souvenir de Dresde. On garde toujours une trace de ces malheurs épouvantables. Il faut que les Syriens sachent ce qu'ils vont garder comme trace de ce qui est leur histoire, quoi qu'il arrive. D'abord, il faut qu'ils réintègrent leur histoire, qu'on cesse ce discours que nous connaissons tous ici, tous ceux qui ont travaillé en Syrie, que tout ce qui s'est passé avant l'islam, ce n'est pas leur histoire. Mais bien sûr que si, c'est leur histoire. On n'a pas donné un grand coup de balai en vidant tout le monde et pour faire de la place à ceux qui arrivaient. C'est ridicule. On ne choisit pas plus son histoire qu'on ne choisit ses parents et ses ancêtres. Eh bien, ça, c'est un discours qu'on ne peut pas encore faire comprendre, en tout cas difficilement, parce que toute l'éducation, tout l'enseignement de l'histoire en Syrie va contre ce discours-là. Et je pense qu'il faut d'abord que les Syriens puissent se réapproprier leur histoire se réapproprier tout leur patrimoine. Oui, il y a un patrimoine chrétien et c'est leur histoire. Il y a un patrimoine qui est gréco-romain, c'est leur histoire, comme le patrimoine arabe, nomade, araméen, tout ce que vous voudrez. Tout ça, ça forme, c'est la totalité de leur histoire.
Bon,
ça,
question difficile. Peut-être un peu naïve, mais on voit bien qu'il faut d'abord s'émanciper de cette histoire de récupération, mais qui ne date pas d'hier. Il faut s'émanciper d'énormément de choses que vous venez de citer. D'ici combien de temps est-ce qu'on peut imaginer que les Syriens prennent en main leur patrimoine et puis puissent imaginer quelque chose sur le terrain ?
D'abord, ça dépendra beaucoup de l'issue de la guerre, il faut bien le dire. Je crois que de toute façon, c'est une histoire d'une ou deux générations. Il faut reconstruire un système scolaire, reconstruire un système éducatif et d'enseignement de l'histoire, où l'histoire ne sert pas uniquement à célébrer la gloire du régime. C'est pas en chantant à toutes les récréations des chants d'amour au président qu'on fait beaucoup avancer la connaissance. Or, eh ben c'est ça. Si. Quand je dis ça, c'est pas une image. Je veux dire que nous, on habitait à côté d'une école. Eh ben, à toutes les récréations, on entend tous les gosses qui chantent en chœur dans la cour et bien rangés en rang. Nous sommes prêts à mourir pour toi. Ce qui est un petit peu embêtant pour les gamins.
Vous avez vous avez parlé, j'imagine, avec des Syriens. Comment est-ce qu'ils réagissent, outre le fait qu'on enlève, comme vous me disiez, leur carte postale, c'est aussi l'industrie touristique qui est touchée de plein fouet. Comment est-ce qu'ils réagissent? Vous parlez des cours d'école, j'imagine que les gens aussi, évidemment.
Mais de toute façon, bon, les Syriens actuellement sont complètement obsédés par les malheurs qu'ils subissent, les conséquences de cette guerre. De toute façon, parler du patrimoine, c'est presque indécent parfois parce que les gens ont tellement subi de choses abominables et puis de choses que les journaux ne disent pas et que l'on va sans doute découvrir après la guerre. Enfin, il y a quand même des milliers de disparus dont on n'a pas de nouvelles, dont on ne sait pas où ils sont. Donc je crois que l'après-guerre va être terrible parce qu'on va découvrir des choses abominables auxquelles pourtant on est assez habitué avec tout ce que nous racontent les journaux. Donc si vous voulez, avant même que les choses deviennent, que l'on puisse parler sainement et de façon dépassionnée du patrimoine, il va falloir reconstruire un pays, reconstruire des gens, tous ces enfants qui sont déscolarisés depuis 6 ans, qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont laissés à l'abandon du point de vue de l'apprentissage, des apprentissages de base. C'est une génération perdu pour la connaissance, la culture, etc. Donc, quand Maurice dit une génération, moi je suis beaucoup moins optimiste, hein, je crois que ça sera beaucoup plus que ça, mais c'est vrai que, et c'est pour ça que parfois on est un peu irrité quand on entend dire « Ah, mais dans 5 ans, on aura reconstruit Palmyre ». Bon, moi j'avoue que cette déclaration au lendemain de la reprise de Palmyre par le régime, par le directeur général des Antiquités qu'on connaît bien, qui est un ami, qui a dit ça sur toutes les radios, je veux dire, le jour même, l'AFP m'a appelé et m'a demandé ce que j'en pensais, évidemment, j'ai dit « Écoutez, je crois qu'il est très optimiste et qu'il faut vraiment là... C'est pas dans ça. D'abord, reconstruire Palmyre dans 5 ans, ça n'a pas de sens. Et puis, en même temps, c'est illusoire. Et alors, il n'est pas très content parce que, du coup, il me bat un peu froid parce que j'ai dit le contraire de la doxa. Mais il faut être réaliste. Tout cela va prendre des années et des années. Enfin, je crois que peut-être même nous ne verrons pas. Patrick, malheureusement.
En parlant donc du directeur, on peut le nommer donc Mahmoud Abdelkarim. Je pense qu'on peut quand même saluer ce qu'il a fait, la position en tout cas qu'il a, qui est celle d'être absolument apolitique et qui avait lancé encore à Damas il y a une année et demie, une grande campagne de sensibilisation pour la population avec des grandes affiches. Alors bon, il y a un problème de propagande derrière, mais on peut quand même saluer cet effort qui avait été fait en disant, voilà, il y avait des photos d'objets emblématiques de la culture matérielle syrienne sur les 2 ou 3 millénaires de l'histoire, en disant, voilà, ces objets vous appartiennent, etc. Donc ne les pillez pas, ne les vendez pas, ne participez pas aux destructions, etc. etc. Donc il y avait quand même une volonté qui était faite. Ensuite, comme point corollaire avec celui-là, je pense qu'il y a notre responsabilité à nous, les missions archéologiques qui étaient là-bas, où souvent... les missions n'ont pas sensibilisé les populations locales. Rares ont été les chefs de mission qui ont amené les populations locales, sensibilisé les populations locales en disant « Voilà, ça c'est votre histoire, qu'est-ce que nous on a fait avec vous? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans votre village? Venez au musée, venez voir. » Il y a Boucelati, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui est à Orkesh, a fait ce travail-là. et où il a vraiment amené les populations sur le site en disant, voilà, ça c'est votre histoire. Nous, on est venus travailler ici, on a eu besoin de vous, mais ce qu'on a découvert vous appartient. Et la situation d'Urkesh est très particulière parce que vous avez d'un côté des populations kurdes, de l'autre côté des populations arabes, mais c'est des personnes qui ont appris le vivre ensemble, et c'est un village qui, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils ont des liens très forts encore avec les populations locales, jusqu'à aujourd'hui fonctionne bien, et le site, par exemple, c'est un des sites qui a été protégé par les populations locales. Donc, on blâme évidemment le régime, ça va prendre en tout cas deux générations. J'ouvre juste une parenthèse, ma mère est libanaise, j'ai vécu la guerre au Liban, et ça fait deux générations bientôt que la guerre est finie, et le travail n'a toujours pas été fait, les gens n'ont aucune idée de ce que représente le patrimoine. Tous les jours à Beyrouth, on descend des immeubles pour construire des buildings immondes, on n'a rien préservé du patrimoine archéologique au moment des fouilles urbaines, etc. Et donc on espère que la même chose ne va pas se reproduire en Syrie, même si on n'est pas très optimiste. Et donc, une génération, deux générations, trois générations, mais je pense qu'il faut aussi souligner la responsabilité que nous, les Occidentaux, nous avons eue, où on est allé là-bas, on a travaillé, on n'a pas pris le temps de sensibiliser, de former les populations locales.
Est-ce qu'on ne peut pas compter sur l'UNESCO, Maurice ?
Alors, l'UNESCO...
Je précise qu'une personne de l'UNESCO était invitée
c'est
aujourd'hui.
Qu'il soit pas là. Non,
et là, elle était en mission. Donc,
oui, mais bien
voilà.
Sûr.
Mais c'est difficile de ne pas parler de l'UNESCO aujourd'hui.
Écoutez, nous devions faire une émission parce qu'il y a un documentaire qui va être diffusé sur France 5 à l'automne, auquel nous avons largement participé. Et il devait y avoir une rencontre entre nous et Madame Bokova, à sa demande, l'UNESCO avait suggéré que nous fassions une interview croisée à propos justement de Palmyre. Et plus l'échéance s'approchait, moins elle était disponible. Et en fait, elle ne l'a pas été du tout. Et le réalisateur du film nous a dit, de toute façon, elle a très peur de discuter avec vous, parce qu'elle savait très bien quelles étaient nos positions. Et en fait, à ce moment-là, M. Poutine lui téléphonait tous les jours en la pressant d'intervenir le plus vite possible pour que les Russes mettent la main sur le site de Palmyre. Donc, je ne suis pas étonnée qu'il n'y ait personne de l'UNESCO.
Mais pour revenir à l'UNESCO, alors, outre l'instrumentalisation, oui.
Il y a deux choses. Il y a quand même une chose qu'il faut dire. Parce que...
Écoute, j'ai rien fait.
Il y a des ondes.
Mais c'est que je les casse au fur et à mesure. Non, c'est sans doute parce que j'allais dire des horreurs. Il y a deux choses. Il y a une chose qui est circonstancielle et que personne ne peut ignorer. Madame Bokova est la candidate de Poutine à la succession de Ban Ki-moon. Bon. Donc, vous comprenez bien qu'elle ne va pas s'opposer frontalement à lui dans l'histoire de Palmyre, puisque Poutine en a fait un enjeu politique. Le concert organisé par son ami Guerguiev dans le théâtre de Palmyre, où avaient été assassinés de manière abominable des soldats syriens, va aussi dans le même sens. Et puis, il y a une chose, je dirais, qui est indépendante de Madame Bokova, c'est que l'UNESCO traite avec les États. Et donc, ils sont liés d'une certaine manière. L'ambassadrice de Syrie à Paris, qui était aussi ambassadrice à l'UNESCO, n'est plus ambassadrice en France, puisqu'on a rompu, la France a rompu avec le régime de Bachar el-Assad et a reconnu la coordination nationale syrienne, mais elle reste tout de même à Paris comme ambassadeur de Syrie à l'UNESCO. Et l'UNESCO ne connaît comme Syrien, en gros, que l'État. Donc c'est extrêmement difficile de collaborer avec... de sauver le patrimoine qui, de toute façon, échappe en partie aussi au régime. Et ce qui a été dit tout à l'heure à propos de Mahmoud est très important et vrai, c'est que Mahmoud Abdulkarim, pendant très longtemps, et je sais pas, c'est sûrement le cas encore maintenant, a réussi à maintenir des contacts, y compris avec les agents des antiquités qui étaient de l'autre côté, qui sont dans les zones tenues par des rebelles. Et ça a été un travail formidable de sa part. Là-dessus, on est tous d'accord pour lui rendre hommage. Il faut bien voir que dans ce qu'il dit, dans son action, il y a deux choses. Il y a ce qu'il fait réellement, et puis il y a des choses pour la façade qui lui sont imposées par le régime. La reconstruction de Palmyre en 5 ans, moi je connais bien Mahmoud, je suis persuadé qu'il sait très bien que c'est impossible, matériellement impossible. Mais alors, pour l'UNESCO, je crois que dans l'immédiat, on ne peut rien en attendre. On ne peut rien en attendre. Ça tient aussi au fait, c'est une longue tradition malheureusement de l'UNESCO, c'est que les sites classés au patrimoine l'UNESCO n'est pas très vigilante. Parce qu'il y a plusieurs sites en Syrie. On a parlé de Palmyre, mais il y a Saint-Siméon. Il y a Alep, il y a Damas, il y a Bosra. Et puis, il y a le Crac des Chevaliers et le Château de Saône. Il y a Bellurette que les Syriens, pour des raisons politiques, ont violé toutes les règles imposées à ceux qui obtiennent un classement au patrimoine sans que l'UNESCO lève le petit doigt. Je vais prendre qu'un exemple. À Bosra, il y avait une zone non constructible délimitée autour du site archéologique. Le premier à y construire sa maison, ça a été le maire de Bosra. L'UNESCO n'a rien dit, jamais. Bon, donc, si vous voulez, à force de laxisme, y a un jour où on ne peut plus rien dire. Donc, je crois que l'UNESCO, on ne peut pas en attendre grand-chose dans l'immédiat. Elle est paralysée par la situation actuelle.
Patrick, par rapport à votre association, ou Site Chirine, en l'occurrence, est-ce qu'il y a des leviers, selon vous ?
Alors, nous, une chose qu'on aimerait faire, en tout cas au sein de Chirine Suisse, c'est justement participer à la formation des collègues syriens. Donc, on se connaît très bien Michel Alamagdissi, que vous connaissez évidemment aussi, qui a fait sortir beaucoup de doctorants syriens, qu'il a placés en Italie, qu'il a placés en France, qu'il a placés en Allemagne, etc. Et on veut que ces personnes puissent continuer à travailler sur leur thèse, mais continuer à être formées. Et on estime que c'est de notre responsabilité aussi de pouvoir accueillir cette relève syrienne chez nous, dans nos universités, pour que le jour où ils pourront retourner dans leur pays, ce soit des gens qui soient formés et opérationnels. Donc c'est aussi une façon positive de voir, c'est-à-dire au lieu de se tourner les pouces en disant qu'est-ce qu'on peut faire, on pense déjà à l'après. Hein, et on forme déjà aujourd'hui ces populations et ces étudiants aussi au travail de restauration. C'est-à-dire en Suisse, on a quand même un pôle qui est assez fort avec le Musée national et des ateliers de restauration dans la région de Zurich. Et on a donc développé des partenariats qu'on espère bientôt pouvoir mettre en place afin de former les gens aux techniques de restauration. Parce que là, c'est clair qu'on peut discuter pendant longtemps du niveau de formation dans les universités syriennes, etc., où il y a un gros manque, c'est vraiment pour les questions de conservation et de restauration.
Alors, j'aimerais bien évoquer avec vous un des thèmes dont la presse a aussi beaucoup parlé, c'est celle de la restauration, ou je ne sais pas comment l'appeler dans ce cas-là, mais en 3D, hein, cette fameuse technique. Est-ce que elle est porteuse d'espoir ? Est-ce que c'est un faux semblant ? Est-ce que c'est un truc de journaliste, comme on dit ? Quelle est votre opinion là-dessus ?
Il y a eu beaucoup, beaucoup d'officines, on va dire, qui se sont déclarées spécialistes de la 3D et qui ont proposé effectivement des services. On a été démarchés par plusieurs qui voulaient des documents, etc. Bon, tout dépend ce qu'on veut en faire. Que l'on fasse une reconstitution 3D du temple de Bel, du temple de Baal Shamin, pour la montrer aux touristes quand ils vont pouvoir retourner sur le site, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont complètement dans le fantasme de pouvoir reconstituer sur le terrain même, en 3D, le temple de Bel. Bon, écoutez, très franchement, moi, je suis pas fan de ça. Hein. Maintenant, c'est pas moi qui vais décider. Mais très franchement, je trouve que là, il y a eu, en plus, si vous voulez, c'est des opérations commerciales. Hein. Il faut pas se faire d'illusions. Et puis, il y a des gens qui ont peut-être pas que des intentions archéologiques dans cette affaire. Bon, enfin bref. Donc, j'en dirai pas plus.
Patrick.
Non, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire, il y a la reconstitution virtuelle en 3D. Donc, on parle de tablettes, de ce qu'on appelle donc la réalité augmentée là. Et l'autre côté, c'est utiliser ensuite la technologie 3D pour l'impression 3D. Donc là, c'est deux choses qu'il faut séparer. Je ne pense pas que les deux idées soient complètement incompatibles ou mauvaises. Je m'explique juste. J'ai été regardé un peu parce que j'avais un vague souvenir que ça avait été fait. Il y a par exemple la ville de Bordeaux. Donc la ville de Bordeaux a utilisé cette technologie de réalité augmentée où les touristes peuvent se promener dans certains quartiers de Bordeaux avec leur tablette. Et puis quand vous passez comme ça la tablette sur les monuments, vous voyez Bordeaux tel que Bordeaux était au XVIIIe siècle. Cluny, si vous êtes allé à Cluny a fait exactement la même chose. Il reste quasiment rien à Cluny, mais vous avez des immenses écrans. Donc c'est pas votre tablette, mais c'est les écrans qui sont sur le site que vous pouvez tourner comme ça, puis vous voyez tout d'un coup le monument qui réapparaît. Et là, je pense qu'il pourrait y avoir une utilité réelle, parce qu'on voulait discuter plus en détail disons, la reconstruction de Palmyre, mais remonter en béton, style Disneyland, les sanctuaires de Palmyre, c'est absolument pas souhaitable, ça vous l'aurez compris. Par contre, on peut imaginer avoir une certaine élévation en fonction des restes des blocs conservés, et puis ensuite, par la réalité augmentée, travailler sur le virtuel en disant, ben, avec la tablette, vous avez plusieurs pages que vous pouvez passer. C'était avant la destruction de Daesh, en gros, à l'époque de Zénobie, mais aussi à l'époque byzantine, quand il y avait une église, par exemple, qui était à l'intérieur de la cella du temple de Baal Shamin, ou quand il y avait encore la mosquée qui était en place à l'intérieur du temple de Bel, à l'intérieur du sanctuaire de Bel, vous aviez le village. Le village va se centrer ensuite à l'intérieur de ces murs. Aujourd'hui, il ne reste plus rien, puisque toutes les maisons ont été rasées pour le bien de l'archéologie. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, où c'est beaucoup plus problématique, c'est d'utiliser l'impression 3D pour la restauration. Il y a un exemple qui a été fait. Donc, on a sculpté des blocs de marbre jaune d'Égypte pour redessiner donc l'arc monumental de Palmyre. Et donc, ça a été présenté en grande pompe, c'était au début de l'été à Londres. Et maintenant, l'arc est posé à Trafalgar Square. C'est une réplique, alors sans les inscriptions, mais avec les reliefs.
Oui, c'est une réplique, mais qui n'est même pas grandeur nature.
C'est
même
pas 1-1.
Et les sculptures sont immondes. Voilà. Alors, franchement, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés.
Donc, mais c'est la machine 3D qui a sculpté les blocs de masse. On n'est pas à l'échelle A1. Ça a coûté 100 000 $. Ouais. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, cet arc puisse voyager à travers le monde pour sensibiliser. Alors là, je pense effectivement que c'est stupide.